Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire des mots pour le dire, toujours avec l'éternel Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Méandre de l'amour, Eros et Agapé, c'est le livre qui nous sert de semaine en semaine à faire, je veux dire, embrasser, faire le tour, mais en fait, on n'arrivera jamais à faire le tour de questions de l'amour, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous l'appelez Méandre de l'amour, parce qu'on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça finit.
Absolument, absolument. Ce sont des circonvolutions... on ne peut pas réduire tout ça à une équation.
Voilà, et donc le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « Du coup de foudre ». Et si vous me permettez, Michel, trois petites citations, justement autour de la question du coup de foudre. La première de Pierre Doris, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet artiste, qui disait « L'avantage du coup de foudre, c'est qu'il fait gagner du temps ». La seconde d'Israël Zwingli, qui dit « Le seul amour véritable est le coup de foudre ». Le second regard rompt le sortilège. Et enfin, d'Alphonse Allais, c'est comme un coup qu'on reçoit là, pan, dans le creux de l'estomac. Très curieux le coup de foudre.
Absolument, absolument. Quiconque doit aimer, aime à première vue. Je crois que c'est dans As You Like It de Shakespeare. Hein. First sight, le premier regard. Voilà, voilà le coup de foudre. Hein. Alors, on en rêve toujours de ce coup de foudre, mais est-ce qu'on l'a bien analysé? Par exemple, au début de L'écume des jours de Boris Vian, nous assistons à un jeune homme, Colin, qui fait sa toilette, et devant son miroir, il dit « je voudrais être amoureux, tu voudrais être amoureux, il voudrait, etc. » C'est une conjugaison du verbe « aimer », être amoureux plutôt. Hein. Donc je dirais qu'il y a une érotisation générale du climat, qui précède toute rencontre. Hein. Comme on dit familièrement, il y a de l'amour dans l'air, et je crois que Boris Vian emploie même cette expression. Alors rien d'étonnant alors que pour Colin, une fois descendu dans la rue, il se fasse un acheminement vers celle qui va être l'élu de son cœur. C'est Chloé dans l'écume des jours. Hein. Donc vous voyez que ce qu'on appelle coup de foudre est préparé par une attente préalable. Hein. Et on définit le coup de foudre d'habitude comme le fait de reconnaître quelqu'un que l'on ne connaît pas. Mais s'il y a cette attente qui fonde le coup de foudre, hein, le phénomène est totalement compréhensible. Il s'agit d'une soif d'aimer, et le propre de la soif est de ne pas être difficile sur la nature du breuvage qui nous est présenté. Et donc on peut tomber amoureux, comme on dit, de n'importe qui, car on préfère le désir lui-même à son objet. Alors nous en avions déjà parlé, Redouane, vous m'aviez dit que vous croyiez vos coups de foudre partagés. Je me pose la question, moi. Hein. Le problème, c'est que si les coups de foudre unilatéraux sont très fréquents, hein, qu'en est-il du coup de foudre partagé? Quelles sont les chances statistiques pour qu'en un même lieu, en un même endroit, deux personnes éprouvent le même désir et se rencontrent? Alors peut-être que les mathématiciens, les spécialistes des probabilités ou des statistiques, je ne sais pas s'il y en a parmi nos auditeurs, hein, pourraient calculer les chances qu'il y a justement à cette rencontre. Hein.
Mais on peut imaginer qu'un coup de foudre peut agir à son tour et créer le coup de foudre. C'est-à-dire, il nous arrive parfois de passer devant des choses de la vie, des trésors de la nature, et tout d'un coup, ça se révèle à nous comme un éblouissement. Et une fois l'éblouissement passé, une fois la surprise passée, on se penche. Alors je me demande si parfois le coup de foudre que je peux avoir pour quelqu'un, lui dire ce sentiment, même si l'autre au départ n'a pas de coup de foudre, peut révéler ou susciter.
Oui, on dit souvent qu'autrui est un peu comme notre miroir, et si nous lui sourions, il nous sourira, hein, c'est-à-dire que nous sourions.
C'est toujours le cas, malheureusement, on a reçu quelques refus de par la vie qui font que...
Voilà, donc vous posez bien le problème, Redouane. Je ne sais pas, laissons la question ouverte. En tout cas, les coups de foudre partagés, il me semble, sont moins fréquents, hein, tout simplement pourquoi ? Parce que deux êtres mis en face l'un de l'autre n'ont pas forcément le même désir d'union au même moment, ne sont pas au même niveau d'attente, n'en sont pas dans leur vie au même stade d'évolution et d'expérience, voyez. Alors il se produit ce qu'on pourrait appeler des entrecroisements ou des chiasmes amoureux. Chiasme, c'est un entrecroisement stylistique, hein, en rhétorique, voilà. Il y a un film de Kieslowski qui s'appelle « Brève histoire d'amour » qui est sorti sur les écrans en 1988. Hein. Nous assistons au cas d'une jeune femme qui est blessée et désabusée par les hommes, et pour cette raison, elle est rendue cynique, et elle détruit en le poussant au suicide le jeune homme qui l'aime pourtant sincèrement, en lui disant que l'amour n'existe pas. Vous voyez que l'on fait payer à celui qui n'y peut rien, hein, et qui très souvent est très naïf, et qui peut même en mourir, c'est le cas dans le film de Kieslowski, il y a une tentative de suicide de la part de ce jeune homme dont on a détruit les illusions, on fait payer à l'autre tout le mal que les autres nous ont fait préalablement. Vous savez, Musset a donné comme titre à une de ses pièces « On ne badine pas avec l'amour ». On peut mourir, effectivement, d'un amour non partagé, hein, ou de la perte de ses illusions. On pleure parfois ses illusions avec autant de tristesse que les morts, vous voyez. Alors, si nous étions toujours au même point de progression dans la vie que tous ceux ou toutes celles que nous rencontrons, à ce moment-là, on pourrait concevoir qu'il y ait partage. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Un tel sera encore naïf, l'autre, une telle sera très avancée dans les expériences, eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a une tragédie. Alors, dans le film de Kieslowski, l'héroïne, après, regrette, elle se repent d'avoir détruit les illusions du jeune homme, et elle va le voir à la clinique où il est justement soigné, après sa tentative de suicide. Alors, les textes qui nous présentent des coups de foudre partagés sont des textes romanesques. Dans le cas de Tristan et Iseult, le narrateur a l'obligation d'avoir recours à un filtre, PHI, un filtre d'amour. Hein. C'est le filtre qui était préparé pour unir Iseult et le roi Marc. Mais la servante Brangien donne le filtre aux deux amants. Alors, ils vont s'aimer éternellement, effectivement. Et dans le cas de L'écume des jours de Boris Vian, nous avons affaire à un roman. Hein. Dans la vie, c'est peut-être autre chose. Hein. Nous avons, dans une émission précédente, Redouane parlait de la loi d'attraction-répulsion, hein, qui fait que le partenaire se dérobe à proportion que notre désir se porte vers lui, et donc l'importune. Et plus nous insistons, plus nous l'importunons. Nous avons, je crois, évoqué la citation de Musset qui nous dit que les femmes sont comme notre ombre, quand on les poursuit, elles nous fuient, et quand on les fuit, elles nous courent après, vous voyez, hein. Seulement, alors là, je ne me fais aucune illusion, on rêvera toujours du coup de foudre, hein, parce que ce qu'on éprouve dans le coup de foudre, c'est magique, c'est éblouissant. Alors on peut s'en contenter, sans doute, parce qu'à côté, la vie paraît bien terne, bien fade, bien médiocre. Hein. Simplement, je mets en garde, si c'est en mon pouvoir, hein, les auditeurs, hein, peut-être, de ne pas croire, je leur dis, de ne pas croire naïvement que tout coup de foudre engendre réciprocité. Alors si nous espérons le coup de foudre, nous pouvons bien le faire, il faut que nous sachions qu'il y a de grandes probabilités que dans ce coup de foudre, il soit question de nous seuls, hein, et non pas forcément de la rencontre effective d'un autre. Alors, j'ai choisi comme première virgule, comme première ponctuation musicale de cette émission, une chanson de Georges Brassens, « Cupidon s'en fout ». Alors, vous allez me dire, quelle différence il y avait le coup de foudre ? Eh bien, il me semble que, c'est l'anti-coup de foudre qu'on entend dans cette chanson, et cette chanson est peut-être le remède à tous ceux qui espèrent cette magique rencontre.
Pour changer un amour, notre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour-là, Vénus était distraite. Il est des jours
où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Des jours où il joue les mouches du coche, où elles sont émoussées dans le bout. Les flèches courtoises qu'il nous décoche, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Se consacrant à d'autres imbéciles, il n'est pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On a tenté sans lui d'ouvrir la fête. Sur l'herbe tendre, on s'est roulé, mais vous, ça avait perdu la vertu, pas la tête. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Si vous m'avez donné toute licence, le cœur, hélas, n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On effeuilla 20 fois la marguerite. Elle tomba 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois, comptez fleurettes. Jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'ai pas cette chance et le regrette. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout.
Brassens, Brassens qui nous accompagne bien souvent, Michel, mais c'est vrai que il a le ton juste, le verbe juste, toujours donc à l'écoute du réseau FM+, les méandres de l'amour, des mots pour le dire, et Michel Théron, toujours au micro. Coup de foudre, alors
oui,
ça,
alors,
c'est la première partie
oui,
de notre émission qui
partie.
Se termine par cette chanson.
Voilà, et eh bien donc... et là, cette chanson nous montre le réel, ce qui se produit très fréquemment dans la vie. On aspire toujours à l'union des âmes, on aspire à une espèce de symbiose des cœurs, hein, et on se contente du contact des corps, hein, hélas, hein, donc de l'amour sans amour, en quelque sorte. Hein. Alors, le coup de foudre est un archétype, justement, qui permet de conjurer, quand il existe dans l'imaginaire, ce réel. Mais j'ai bien aimé justement produire cette chanson pour non pas désespérer les gens, mais les mettre en garde, le réel est là qui nous presse souvent. Alors maintenant nous allons parler du désir et des conflits que le désir engendre, hein, après avoir parlé du coup de foudre. Alors vous admettrez volontiers, Edouane, avec moi, qu'un être heureux, c'est un être qui est unifié, hein, et non pas partagé, tiraillé entre des exigences antagoniste. Or, il arrive que dans le cas de l'amour compris comme éros, comme désir, eh bien, celui qui éprouve ce type de sentiment ou de pulsion soit divisé, partagé. Alors finalement, le conflit, hein, ne se produit pas seulement dans le cas où l'autre ne répond pas à notre désir, ce qui serait un conflit, pour ainsi dire, extérieur, qui existe, bien sûr, et qui est la source de nombreuses tragédies, hein, Mais le conflit se produit bel et bien dans l'âme de celui qui éprouve Eros. C'est un conflit intérieur et l'être va se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de lui-même. Il va se trouver désuni et souvent jusqu'à l'écartèlement. Alors, posons comme point de départ, quelque chose d'assez banal, que l'homme est passion et raison. Si les deux modalités de son être sont en harmonie, il n'y a évidemment pas de désunion. Mais dans le cas contraire, s'il y a séparation, alors il y a désunion. Certains, bien sûr, font reposer l'amour sur l'estime, c'est-à-dire la perception objective et raisonnée des qualités de l'autre. C'est le cas de Corneille, par exemple, hein. Cette position est résumée dans le Cid par le vers fameux prononcé par Rodrigue à l'adresse de Chimène, hein. Qui m'aima généreux me haïrait infâme, c'est-à-dire celui qui m'aima lorsque j'avais la générosité en moi, hein, me haïrait si j'étais déshonoré, si j'étais infâme. Hein. Et cela va très loin même, puisque Rodrigue dans le Cid a dû tuer le père de son amante pour être digne d'elle, vous voyez, hein. Je t'ai fait une offense et j'ai dû m'y porter pour effacer ma honte et pour te mériter. Alors, je passe sur le côté, à mes yeux, inadmissible et barbare, en fait infantile, de cette conception de l'honneur chevaleresque dont Schopenhauer a fait justice, par exemple, dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie. Non, ce qui m'intéresse ici, c'est la forme que prend le sentiment amoureux, ce qui le fonde, son soubassement, l'idée de mérite. Selon cette vision, l'amour se mérite et on ne peut aimer quelqu'un que si on le perçoit comme étant méritant, c'est-à-dire digne de l'amour qu'on lui porte. L'amour se base sur l'estime qu'on a pour lui, et si l'estime disparaît, alors l'amour aussi disparaît. Et c'est la raison qui est l'arbitre de ce jugement. Alors cette conception serait très rassurante et exempte de conflit. Malheureusement, elle ne résiste pas à l'analyse et à l'observation. Alors tout le monde connaît la phrase de la Bruyère qui est souvent proposée aux élèves dans les lycées, en première par exemple, commenter la phrase suivante: « Corneille peint les hommes tels qu'ils devraient être, hein, et Racine les peint tels qu'ils sont ». Effectivement, je pense que la vision cornélienne est idéaliste et que ce sont bien plutôt Racine ou encore Molière et bien d'autres qui ont vu plus clair. Voyez ce que dit Alceste dans Le Misanthrope de Molière, à l'égard de Célimène, hein, on lui représente que Célimène est une coquette, n'est pas digne de son amour, et Alceste dit « Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour ». Vous voyez, il a beau voir, Alceste, les défauts objectifs de Célimène, il ne cesse de l'aimer pour autant. Et pareillement, dans l'école des femmes, Arnolphe dit à Agnès, hein, qui se moque de lui en quelque sorte, hein, « Et quoi qu'avec ardeur je veuille vous haïr, trouvais-je en moi un cœur tout prêt à m'obéir ?» Alors vous voyez que ces vers de Molière pourraient être prononcés par n'importe quel personnage racinien. Bref, Pascal a raison lorsqu'il dit la fameuse phrase. Peut-être, j'ai pensé qu'un jour vous le diriez en commençant, puisque vous commencez par des citations. La phrase de Pascal: le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous hochez la tête, Redouane.
Oui, tout à fait.
Je vais la garder en réserve.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette maxime, cette citation, on pourrait dire, elle est universelle. Parce que le cœur a ses raisons, et lorsqu'on regarde à travers les cultures, à travers le monde, la raison n'est pas universelle. C'est-à-dire la rationalité est différente selon le contexte moyen-oriental, asiatique. C'est pas la même rationalité, on n'a pas la même relation au discours, la même relation aux mots. Et du coup, je pense, la même rationalité pour les questions du cœur.
Évidemment, Pascal ne pensait pas à cela. Et bon, il n'avait pas parcouru le monde comme vous l'avez fait, vous, Redouane.
Enfin, il a parcouru la pensée, ce qui est déjà un immense champ d'exploration.
Oui, bien sûr. Grand voyageur devant l'éternel, Redouane. Hein. Alors, bien sûr, derrière le cœur, bon, certains matérialistes verraient simplement, sans euphémisation, la pulsion sexuelle, tout simplement. Et c'est un fait que, n'en déplaise à Corneille, on peut continuer à désirer, au sens de convoiter sexuellement, quelqu'un que l'on méprise totalement. Ainsi, le chevalier Desgrieux revient sans cesse à la courtisane infidèle Manon, dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost, parce que si elle est légère de vertu, pourrait-on dire, elle est pesante de corps, en quelque sorte, hein. Vous connaissez l'expression « avoir quelqu'un dans la peau », c'est une expression familière, mais cela peut mener à toutes les abdications, à tous les abaissements, à tous les reniements. Et ce paradoxe est à la base de ce qu'on appelle l'amour vache, vous voyez. C'est bien là un thème tragique, le langage même, lorsqu'il parle de tomber amoureux, contient bien l'idée d'une chute. En anglais, c'est « to fall in love », hein, c'est une chute. Alors, bien sûr, vous conviendrez, Redouane, qu'un homme nul n'est pas à envier, hein. Mais il y a quelque chose de pire, c'est un homme annulé, vous voyez. Et par exemple, par la passion qu'il éprouve pour un être qui se moque de lui. Et les mythes et récits sont innombrables là-dessus. Par exemple, Samson et Dalila, Hercule au pied d'Omphale, ou bien plus près de nous, le baron Hulot dans La Cousine Bête de Balzac, le comte Muffat dans Nana de Zola, voyez aussi La Femme et le Pantin, Pierre-Louise, L'Ange Bleu, le film de Sternberg. Donc, il y a toujours, professeur Honrat, je crois, hein, l'origine de L'Ange Bleu. Donc, il y a toujours l'idée d'une chute. Alors, on peut me dire, peut-être certains auditeurs vont penser que cette vision est masculine, et que si un homme peut aimer en ce sens un être qu'il méprise, une femme ne peut se donner à quelqu'un qu'elle n'estimerait pas au moins un petit peu, et pour lequel elle n'éprouverait pas un minimum d'intérêt. Alors, je ne sais trop si c'est vrai. Je suis de plus en plus dubitatif, Redouane, surtout lorsque je parle avec des interlocutrices féminines, hein, qui nient évidemment toute différence entre le masculin et le féminin. Certaines veulent se comporter comme des hommes dans la relation amoureuse. Alors moi, je me fais tout petit, si vous voulez, et je me garde bien, enfin je dis en sourdine ce que j'avance, hein. De toute façon, si on s'attache à l'estime que l'on éprouve pour quelqu'un, on survalorise l'importance de la raison, et l'on oublie l'importance du cœur qui peut nous tirer, bien malgré tout, bien malgré nous, là où nous ne voulons pas aller, vous voyez. Par exemple, dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, la jeune fille Cécile Volanges, à un moment, est violée par Valmont, hein, le séducteur cynique. Et voici ce que Cécile dit ensuite à la marquise de Merteuil, qui est sa confidente. « J'ai senti que je ne me défendais pas autant que je l'aurais dû. » Alors là, c'est terrible. Il y a un horrible assentiment ou consentement du corps qui entre violemment en conflit avec les exigences de l'âme. Le corps dit oui quand l'âme dit non. Et il ne faut souhaiter à personne de se trouver dans cette situation, qui pourtant arrive très fréquemment, hein. Parce que dans cette situation, l'être est divisé, séparé de lui-même, et ce partage est littéralement diabolique. Alors ce n'est pas à vous, Redouane, que j'apprendrai l'étymologie de diabolos, hein. C'est le diviseur, hein, le diviseur, le diable diviseur, celui qui s'aime livrer dans le champ de bon grain, hein, ou la zizanie, c'est livré, hein, la zizanie, dans un groupe ou à l'intérieur d'une personne, dans un cœur, hein. Le diable divise, hein, à l'opposé du diable, est le symbole, Symbalein, hein, qui est le contraire de Diabalein, qui réunit. Bon, alors, ce diable, justement, existe dans la relation amoureuse, puisque il empêche l'unification, cette unification à quoi nous aspirons tous et que préconisent toutes les sagesses et toutes les spiritualités du monde. Voici ce qu'on lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37, « Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, c'est-à-dire du diable. Ici, nous sommes dans l'enfer de l'ambivalence. En nous, le oui et le non se brouillent et se confondent. Pour Mathilde, le corps dit oui, l'âme ou le cœur disent non, hein. Et ne pas pouvoir se passer de ce qu'on déteste, finalement, c'est une définition possible de l'enfer, ici-bas, il me semble, hein. Alors, donc, cette définition que je dis du diable, je n'en fais pas, si vous voulez, le diable, le gardien de la grande fournaise où nous allons rôtir après la mort, hein, selon la vision populaire. Non, le diable est dans nos vies. Hein. La plus grande ruse du diable, je crois que c'est Nietzsche qui le disait, est de faire croire qu'il n'existe pas. Hein. Il existe au cœur de nos vies. C'est le diviseur, hein, ce qui sépare notre cœur, notre corps, si vous voulez. Et on va bien entendre cette position dans la chanson que j'ai choisie en numéro 2, c'est Mathilde de Jacques Brel, où on voit le héros descendant en enfer quand revient devant lui cette femme fatale, fatale, fatum, qui crée le destin, hein, qui va être son destin.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer vos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque je me lasse. Mon cœur, mon cœur, ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous mes mains ne vous ouvrez pas, vous mes bras ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, Mathilde, mère revenue. Bounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mais revenue. Voilà servante, voilà Maria, va tendre mon front lit de bras. Mathilde, mais revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.